Joie de vivre ainsi et de reprendre la possibilité de vous accueillir. Alors, je redis l'horaire de cette journée. Nous avons l'enseignement maintenant. Dans la foulée de l'enseignement, le Saint-Sacrement est exposé sur l'autel pour ceux qui le souhaitent prendre un temps d'adoration eucharistique jusqu'à l'Eucharistie, et l'Eucharistie sera à 11h30. Voilà. Il y a, durant le temps qui précède l'Eucharistie, il y aura la possibilité de vivre le sacrement de la réconciliation auprès du Père Philippe, qui sera au bureau du prédicateur, juste ici derrière, la salle de la parole, ou auprès de moi-même, et je serai à la mezzanine, c'est-à-dire au plus deux de ce bâtiment-ci, donc près du feu ouvert, là il y a un escalier, une volée, deux volées, et directement à gauche, ou bien en prenant l'ascenseur, au plus deux, directement en sortant de l'ascenseur à gauche, à la mezzanine. Voilà. Et puis il y aura, donc nous vivons cette matinée, cette journée dans un esprit d'intériorité, hein, c'est une journée pour Dieu, donc de silence, et en même temps, le repas partagé, où la communauté sera présente aussi, eh bien, là, après la messe, le silence est rompu, nous prenons le temps du repas en échangeant à table, et nous reprenons le climat de silence après le repas du midi. Donc le repas du midi sera à 12h30 dans la foulée de la messe, et à 13h30 nous reprenons ici pour encore un petit temps d'enseignement et un temps de silence avant la prière de clôture de cette journée qui aura lieu à 15h à la chapelle. Tout au long de cette année, nous cheminons dans le cadre des Journées pour Dieu en lien avec l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti, tous frères. Nous la parcourons progressivement. Aujourd'hui, nous entrerons davantage dans le chapitre 5 de cette encyclique. Pour rappel, je vous donne les thématiques des chapitres précédents. Ça permet de raccrocher le wagon. Le premier chapitre, c'était les ombres d'un monde fermé. Voilà. Le pape pointait certaines ombres de ce monde, d'un monde fermé. Le chapitre 2, c'était un étranger sur le chemin, avec tout ce qui était en lien aussi avec à l'éclairage de la parabole du bon samaritain, entre autres. Le chapitre 3, eh bien, c'était l'invitation à penser et à gérer un monde ouvert. Voilà. Le chapitre 4, c'était un cœur ouvert au monde. On voit une progression rien qu'à travers les titres de ces chapitres. Il ne s'agit pas seulement de penser ou de gérer, il s'agit encore d'avoir un cœur qui soit ouvert au monde. Ça va plus loin qu'une organisation à penser ou à gérer. Et je reprends deux, trois éléments de ce chapitre 4. Au fond, nous y avions vu avec le pape François combien il était important que chacun soit bien ancré dans son identité pour pouvoir vivre l'authentique rencontre avec l'autre qui soit une rencontre enrichissante pour chacun. Être bien ancré dans son identité, dans sa culture, et être alors ouvert aux autres cultures. Avoir un cœur ouvert aux autres cultures et aux autres réalités. Et cela produit alors un enrichissement pour tous. Il avait également abordé dans ce chapitre 4 toute la question des migrants. Hein? Voilà, toute la question des migrants et du lien qui doit être respectueux entre les cultures. Et pour ça, c'est important d'être ancré dans son identité culturelle. Hein? Le lien qui doit être respectueux entre les cultures, car toute culture apporte à l'ensemble un plus. Vous voyez? Donc cette fraternité universelle, cette amitié sociale dont nous parle le pape François et l'Église, n'est pas un nivellement. Au contraire, c'est accueillir que l'autre, qui est différent, a un plus à apporter à l'ensemble. Et ainsi, il contribue à la construction de l'ensemble. On voit bien que c'est quelque chose qui transpire à travers cette encyclique. On l'avait déjà vu quand le pape, dans les chapitres précédents, en particulier chapitre 3, avait pointé également l'importance, l'implication, par exemple, des personnes aînées dans une société, hein, ou des personnes porteuses d'un handicap. Ici, il se situe au niveau interculturel. Toute culture apporte à l'ensemble un plus pour construire, nourrir, enrichir le bien commun. Voilà. Et là, je relis avec vous une partie du numéro 134. C'était toujours dans le chapitre 4, parce que je raccrocherai à partir de là le chapitre 5. Numéro 134, les cultures différentes qui ont développé leur richesse au cours des siècles doivent être préservées afin que le monde ne soit pas appauvri. Voilà, voilà l'enjeu. C'est pas de devenir plus pauvre. Non, les cultures différentes qui ont développé leur richesse. Ça m'interpelle, parce que ça veut dire aussi que quand je pose le regard sur une culture différente, est-ce que j'ai ce réflexe d'y percevoir la richesse de cette culture? Et donc, est-ce que j'ai le réflexe d'accueillir que ma propre manière d'être au monde n'est pas la seule richesse? Donc, les cultures différentes qui ont développé leur richesse au cours des siècles doivent être préservées afin que le monde ne soit pas appauvri. Il faut cependant les stimuler, voilà, à faire jaillir quelque chose de nouveau dans la rencontre avec d'autres réalités. Prendre en compte chaque culture et en même temps que chaque culture puisse être stimulé à faire jaillir quelque chose de nouveau par la rencontre avec d'autres réalités. On ne peut pas ignorer le risque, nous disait-il, de se retrouver victime d'une sclérose culturelle. Un peu de mots forts. Hein? Voilà pourquoi nous avons besoin de communiquer, de découvrir les richesses de chacun, de valoriser ce qui nous unit et de regarder les différences comme des possibilités de croissance dans le respect de tous. regarder les différences comme des possibilités de croissance dans le respect de tous. Un dialogue patient et confiant, ah voilà, voilà ce que ça demande finalement. Un dialogue patient et confiant est nécessaire en sorte que les personnes, les familles et les communautés puissent transmettre les valeurs de leur propre culture et accueillir le bien provenant de l'expérience des autres. Transmettre les valeurs de sa propre culture et accueillir. Voilà. J'ai quelque chose à apporter à la communauté, entre guillemets, mondiale. J'ai quelque chose à recevoir. Et donc, cela demande aussi la posture d'une humilité dans ce que j'apporte, parce que je reconnais en même temps que j'ai à accueillir de l'expérience de l'autre et des autres. Des autres, donc, au visage multiple. Et c'est là qu'on verra, par exemple, que dans le chapitre 5, l'expérience des autres, dit-il ici, et au chapitre 5, à un moment donné, il parlera des accords multilatéraux entre les peuples comme étant bien préférables aux accords bilatéraux. S'enrichir de la différence et de l'expérience des autres, pas seulement d'un autre. L'enjeu des accords multilatéraux, dira-t-il, plus important que les accords bilatéraux entre les peuples. Et donc, c'est l'importance du respect de chaque culture qui a à apporter, mais qui a aussi à être nourri de l'expérience des autres, qui est différente. Et de chacun être bien ancré dans son identité, dans sa culture. On ne peut rencontrer l'autre, disait-il, que si on est bien ancré ainsi. Et puis, un autre point, il y a trois points que je relève au chapitre 4 pour entrer dans le chapitre 5. Le deuxième point, c'est la gratuité. La gratuité. Au numéro 139, le pape nous disait que combien la gratuité existe. Il disait, je ne voudrais pas limiter cette approche à un genre d'utilitarisme. J'ai besoin de l'autre pour grandir, etc. Non, la gratuité existe. Et il nous dit ce qu'est la gratuité. C'est la capacité de faire certaines choses uniquement parce qu'elles sont bonnes en elles-mêmes. Sans attendre aucun résultat positif. Sans attendre immédiatement quelque chose en retour. Mais je suis capable de faire quelque chose uniquement parce que cette chose est bonne en elle-même. Sans calculer le retour que je vais en attendre. Ça, c'est ce qu'il nous parle, ce qu'il nomme ainsi cette gratuité qui existe. Cela permet, dit-il, d'accueillir l'étranger. Parce que l'accueil de l'étranger est en soi une chose bonne. Cela permet d'accueillir l'étranger, même si pour le moment, il n'apporte aucun bénéfice tangible. Mais certains pays souhaitent n'accueillir que les chercheurs ou les investisseurs. On n'est pas là dans l'ordre de la gratuité. J'aime bien cette définition de la gratuité qu'il donne. Cette capacité de faire certaines choses uniquement parce qu'elles sont bonnes en elles-mêmes, sans en attendre du retour. Et alors, il poursuit cette idée, au numéro 140, celui qui ne vit pas la gratuité fraternelle fait de son existence un commerce anxieux. Il est toujours en train de mesurer ce qu'il donne et ce qu'il reçoit en échange. Dieu, en revanche, nous dit-il, donne gratuitement au point d'aider même ceux qui ne sont pas fidèles. Et Matthieu 5, verset 45, et il, Dieu, fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Voilà. Gratuité. Voilà. Faire lever son soleil est une œuvre bonne. Et il l'a fait lever sur les méchants et sur les bons. Donc la notion et dimension de gratuité. Et je reprends cet élément parce que nous verrons que le chapitre 5, où le pape va traiter de la politique, parce qu'il faut bien à un moment donné y arriver et en parler, eh bien, cette dimension de gratuité, cette dimension d'œuvrer pour du bon, sans nécessairement mesurer la récolte que j'en aurai, est fondamentale quand il parlera dans ce chapitre 5 de la, je dirais presque, de la charité, et c'est lui qui le dit d'ailleurs, de la charité en parlant de la politique. Non pas des œuvres de charité au sens comme on l'entend habituellement, mais de quelque chose de plus profond, de gratuit, au sens où il en parle ici. Troisième élément que je reprends au chapitre 4, comme introductif à l'ensemble de cette thématique politique qu'il aborde au chapitre 5, c'est que nous sommes appelés, au plan mondial, nous dit-il, à vivre une communion qui n'est pas la même chose qu'une somme des différences. C'est au numéro 149 que je reprends cette thématique-là. Voilà. Il est bon de rappeler que la communauté mondiale, et se situe à ce niveau-là au chapitre 4, hein. Il est bon de rappeler que la communauté mondiale n'est pas le résultat de la somme des pays distincts, mais la communion même qui existe entre eux. Voilà. La communauté mondiale n'est pas la somme des pays distincts, mais la communion même qui existe entre eux. Tout cela, tout ce que le pape François décrit déjà dans son encyclique, on est à peu près à la moitié, hein, depuis le début, les accents qu'il y met dans ce chapitre 4, certains accents que je viens de relever, identité, accueil, gratuité, communion, tout cela nous ouvre à penser, et c'est le chapitre 5 dans lequel nous entrons plus en profondeur ici, à penser la meilleure politique, hein. C'est le titre du chapitre. La meilleure politique. Et j'ai tout de suite envie d'aller retrouver, je n'avais pas pensé vous commencer par là, mais j'espère que je vais retrouver facilement ce que je cherche. Oui, je vous lis, je commence par vous lire là, le numéro 176. Pour beaucoup de personnes, la politique est aujourd'hui un vilain mot. Vous savez, on se désintéresse de la politique, on se... à quoi bon, etc. Nos politiciens sont tous pourris, etc. Enfin, j'en sais rien, moi. Mais on entend parfois comme ça un peu des phrases à l'emporte-pièce comme ça, hein, qui sont... voilà. Donc, pour beaucoup de personnes, nous dit le pape, la politique est aujourd'hui un vilain mot, et on ne peut pas ignorer qu'à la base de ce fait, il y a souvent les erreurs, la corruption, l'inefficacité de certains hommes politiques. Voilà. Ah, déjà là, c'est important, hein, l'inefficacité de certains hommes politiques. Ne mettons pas tout le monde dans le même panier. Vous savez, c'est comme, on va dire, tous les jeunes sont comme ci, comme ça. Non. Ou tous les vieux sont comme ci, comme ça. Ou tous les hommes politiques sont comme ci, comme ça. Et alors on évacue la richesse que la jeunesse peut apporter à la société, on évacue la richesse que la vieillesse peut apporter à la société, et on évacue la richesse ici que la politique peut apporter à la société. Un piège qui est le nôtre quand même, hein, c'est de mettre un peu souvent tout le monde dans le même sac. Donc ici, voilà... Donc, pour beaucoup de personnes, la politique est aujourd'hui un vilain mot, et on ne peut pas ignorer qu'à la base de ce fait, il y a souvent les erreurs, la corruption, l'inefficacité de certains hommes politiques. À cela s'ajoutent les stratégies qui cherchent à affaiblir la politique, à la remplacer par l'économie, ou la soumettre à quelques idéologies. Donc tout ça, le pape voit ça, bien sûr. C'est la réalité dans laquelle la politique évolue et est. Mais, dit-il, mais, le monde peut-il fonctionner sans la politique? Peut-il y avoir un chemin approprié vers la fraternité universelle et la paix sociale sans une bonne politique? Voilà. Sous-entendu, pour la fraternité universelle, pour la paix sociale, la politique est indispensable. Elle est nécessaire. Maintenant, avec ce préambule que j'ai pris au numéro 176 de l'encyclique, le pape va nous décortiquer certaines réalités en vue de penser la nécessité de la politique, mais sous l'angle de ce qu'il nous partage comme étant la meilleure politique au service de cette fraternité universelle et de cette paix sociale. La meilleure politique au service de cette fraternité universelle et de cette paix sociale. Donc, c'est sûr que c'est un chapitre important et qui n'est pas d'emblée évident. Il va commencer par remettre certains termes en exergue, et entre autres, la réalité du terme du peuple. Le terme peuple, le terme populaire, au beau sens du mot, et la réalité du populisme. Et il nous aide à mettre des mots pour plonger dans l'importance de garder à l'esprit la dimension du peuple. Parce que c'est la dimension qui permet de penser une construction commune. Une construction commune qui n'est pas liée à uniquement un groupe au sein d'un ensemble d'individus, je lis avec vous un extrait du numéro 157. Pensez aux objectifs communs, voyez, au-delà des différences. Ah voilà, pensez aux objectifs communs, au-delà des différences, pour façonner un projet commun. Il est très difficile de projeter quelque chose de grand à long terme. Voilà. C'est encore une dimension que le pape souligne dans ce cinquième chapitre au niveau de la politique au service de la fraternité universelle et de la paix sociale. Il nous faut agir dans le long terme. Penser la politique dans le long terme. Mais donc, il est très difficile de projeter quelque chose de grand à long terme si cela ne devient pas un rêve collectif. Vous voyez ? Pas le rêve d'un ou deux ou trois, pas le rêve d'un groupe ou l'autre. Un rêve collectif. Tout cela, donc penser aux objectifs communs au-delà des différences, pour façonner un projet commun, et le fait qu'il soit très difficile de projeter quelque chose de grand à long terme si cela ne devient pas un rêve collectif, tout cela est exprimé par le substantif peuple, mot guillemets peuple, mot substantif peuple, et par l'adjectif populaire. Au beau sens noble du mot. Hein. Le terme peuple au numéro 158. Le terme peuple a quelque chose de plus, nous dit-il, qu'on ne peut pas expliquer de manière logique. Voilà. Parce qu'on sent bien, hein. Le peuple, finalement, ça va être une communion, plus qu'une somme de différences. Le terme peuple a quelque chose de plus qu'on ne peut pas expliquer de manière logique. Faire partie d'un peuple, c'est faire partie d'une identité commune, faite de liens sociaux et culturel. Faire partie d'un peuple, c'est faire partie d'une identité commune. Et voyez, on retrouve son thème de l'identité, hein, l'identité culturelle. Voilà. Faire partie d'un peuple, c'est faire partie d'une identité commune faite de liens sociaux et culturels. Cette identité commune est faite de liens sociaux et culturels. Et cela n'est pas quelque chose d'automatique, nous dit-il. Tout au contraire, c'est un processus lent, difficile, vers un projet commun. C'est donc un processus lent, difficile, vers un projet commun. Voyez combien... Au terme peuple, le pape associe la dimension de projet commun, de rêve collectif, de, voilà, voyez, d'une identité faite de liens sociaux et culturels qui se construisent et c'est progressif. Ce n'est pas gagné, ce n'est pas automatique. pitié, faire partie d'un peuple. On voit déjà combien ici, ce qu'il va développer, hein, c'est pas gagné, c'est pas automatique, parce que si c'est un processus qui évolue vers un projet commun, ce projet commun ne pourra être commun que s'il intègre les différentes personnes du peuple. Vous voyez ? Et que ceux que l'on a tendance à exclure soient intégrés dans ce projet commun au nom de leur dignité humaine inaltérable, qui qu'ils soient. C'est un autre leitmotiv que le pape souligne tout au long de cette encyclique. La dignité humaine. Ben oui, c'est pas automatique. De rêver, de construire, d'avancer dans un projet commun, mais qui soit vraiment commun, en intégrant. Vous vous rappelez au chapitre 3 quand il parlait des personnes âgées, par exemple. Il invitait à regarder ce que la réalité des aînés a à apporter à la construction du monde d'aujourd'hui. Etc. On n'est pas étonné, hein? Vous avez lu ou pas? Je trouve très beau la lettre que le pape François a écrite pour la première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. C'est dans un langage très accessible, il tutoie son interlocuteur et il y a quelque chose de profond là-dedans. Donc, maintenant qu'il a resignifié l'importance de ce qu'est le peuple, il va pointer deux types de dirigeants. Le dirigeant populaire, le dirigeant populaire, et le dirigeant qui va utiliser son pouvoir au service d'un populisme malsain. C'est le numéro 159. Mais tout part de cette compréhension du peuple, au sens où il en parle. Il y a des dirigeants populaires capables d'interpréter le sentiment d'un peuple, sa dynamique culturelle et les grandes tendances d'une société, la fonction qu'ils exercent en rassemblant et en dirigeant, peut servir de base pour un projet durable de transformation. Vous voyez, projet durable, pas juste pour le mandat, un projet durable de transformation et de croissance qui implique, la phrase importante ici, qui implique aussi la capacité d'accorder une place à d'autres en vue du bien commun. Voilà. Le dirigeant populaire qui va sentir la dynamique du peuple, qui va sentir, comme il le dit, hein, les grandes tendances d'une société et qui, sentant tout cela, va exercer sa mission, sa fonction, en rassemblant. Voyez là, rassembler, hein, et en dirigeant. Il peut ainsi servir de base pour un projet durable de transformation et de croissance. Voyez ? Projet durable de transformation et de croissance. Il faut toujours voir ça, si la transformation est source de croissance. Hein ? Elle devrait l'être. Mais l'est-elle toujours ? Voilà. Hein, donc, pour un projet durable de transformation et de croissance, et puisque je pense être la phrase fondamentale parce qu'elle est le garde-fou, qui implique aussi ce projet de transformation et de croissance, qui implique aussi la capacité d'accorder une place à d'autres en vue du bien commun. D'autres, ça veut dire sous-entendu d'autres qui pensent pas comme moi nécessairement, d'autres qui sont pas comme moi, d'autres, voilà, la place de l'autre. Et voyez, c'est peut-être là le garde-fou, hein, c'est l'ouverture à l'autre, et peut-être le garde-fou d'un repli identitaire stérile, et qui en arrive peut-être aussi à un moment donné à une division, à un rejet de celui qui n'est pas comme moi. C'est pour ça que je dis, c'est là sans doute la phrase clé de ce paragraphe, je pense. Voilà. Un repli, oui, c'est ça. Et c'est peut-être là le piège, hein, peut-être, hein, là, le piège du populisme. On comprend donc que dans le vocabulaire qu'il utilise, populaire n'est pas sur le même pied, évidemment, que populisme. Hein? Voyez? Donc, je relis cette phrase et j'enchaîne, parce que c'est là qu'il fait la nuance entre ce dirigeant populaire qui, sentant les choses du peuple, etc., va rassembler pour mettre en œuvre un projet de transformation et de croissance, qui fait place et qui accorde une place à l'autre en vue de ce bien commun qui se construit. Et puis je vais plus loin. La fonction donc qu'ils exercent, ces dirigeants populaires, en rassemblant et en dirigeant, peut servir de base pour un projet durable de transformation et de croissance qui implique aussi la capacité d'accorder une place à d'autres en vue du bien commun. Mais la fonction qu'ils exercent se mue en un populisme malsain lorsqu'elle devient l'habileté d'un individu à captiver afin d'instrumentaliser politiquement la culture du peuple grâce à quelques symboles idéologiques au service de son projet personnel et de son maintien au pouvoir. Vous voyez ? Donc la fonction du dirigeant qui va sentir aussi un peu le peuple peut être non pas populaire au sens noble et grand du mot comme on vient de dire, mais elle peut se muer en un populisme malsain quand elle devient l'habileté d'un individu à captiver afin d'instrumentaliser politiquement la culture du peuple grâce à quelques symboles idéologiques au service de son projet personnel et de son maintien au pouvoir. Les groupes populistes, nous dit-il au numéro 160, les groupes populistes défigurent le terme peuple. Ben oui, on comprend, hein? Les groupes populistes défigurent le terme peuple. Puisque en réalité, ce dont ils parlent n'est pas le vrai peuple. En effet, la catégorie de peuple est ouverte. Hein, vous voyez, en lien avec ce qu'on a vu là tout de suite du peuple. Le peuple, c'est ouvert, c'est l'accueil de l'autre. Et c'est avec l'accueil de l'autre, construire, transformer et croissance du bien commun. Du bien commun! Pas du bien d'un groupe ou d'une personne, du bien commun. En effet, la catégorie de peuple est ouverte. Un peuple vivant, dit-il toujours au 160, un peuple vivant, dynamique et ayant un avenir est ouvert de façon permanente à de nouvelles synthèses intégrant celui qui est différent. Voilà. Intégrant celui qui est différent. Ce peuple qui est ouvert à l'accueil de nouvelles synthèses qui intègrent celui qui est différent ne le fait pas en se reniant lui-même. Ce n'est pas se renier que d'accueillir l'autre qui est différent. Voyez. Et c'est pour cela hein, qu'au chapitre 4, le pape avait mis ce point d'esprit en bulle. Si je veux rencontrer l'autre et au service d'une croissance, je dois être bien établi dans mon identité. Mon identité n'est pas l'exclusion de l'autre, mais je pourrai rencontrer l'autre à partir de qui je suis. Et c'est à partir de qui je suis que je pourrai goûter aussi ce que l'autre m'apporte et que l'autre pourra goûter ce qu'il m'apporte. Quand vous mettez du sel dans les frites, vos frites sont améliorées parce que le sel est sel. C'est pas vrai? Mais c'est vrai. Mais si le sel n'était plus du sel, d'ailleurs ça c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Mais c'est ça. Et les frites sont enrichies parce que le sel est bien dans sa mission de sel. Mais donc ici, voilà. Et donc, quand le pape dit que le peuple, la notion de peuple, est une notion ouverte qui accueille la différence, celui intégrant celui qui est différent, il ne perd pas son identité. Quand on accueille celui qui est différent, on ne perd pas son identité, c'est ce qu'il dit. Il ne le fait pas en se reniant lui-même, mais en étant disposé au changement. Je ne me renie pas moi-même, mais en même temps, accueillant la rencontre de l'autre qui est différent, sans me renier, je suis disponible au changement. Et ça, c'est la grandeur de ce que le pape souligne en parlant du peuple. En étant disposé au changement, à la remise en question, au développement, à l'enrichissement par d'autres. Vous voyez, c'est toujours en vue d'un plus de vie. En vue d'un plus de vie, hein? Un enrichissement par d'autres. Et ainsi, nous dit-il, le peuple peut évoluer. Vous voyez? Et donc, c'est là hein, que le pape nous dit que les groupes populistes défigurent le terme peuple. pause, je vais encore prendre un terme qu'il parle et qui évoque une réalité. Hein. Il va parler ensuite du travail. Du travail. Comme étant finalement ce qui est peut-être le plus essentiel pour souligner la dignité de l'homme. C'est au numéro 162. La grande question, c'est le travail. Voyez, pour construire ce peuple qui s'enrichit et qui est vers un enrichissement, on est dans cette dynamique-là, hein? Eh bien, la grande question, c'est le travail. Ce qui est réellement populaire, dit-il. Populaire. Parce qu'il contribue au bien du peuple. Voilà. La grande question, c'est le travail. Ce qui est réellement populaire parce qu'il contribue au bien du peuple, c'est d'assurer à chacun la possibilité de faire germer les semences que Dieu a mises en lui. C'est beau, hein? Sous-entendu, donc, Dieu a mis des semences en chacun. Et c'est le cas. Quelle est la possibilité que nous donnons à chacun de faire germer les semences que Dieu a mises en lui. Ses capacités, continue-t-il, son sens d'initiative, ses forces. Eh bien, le pape nous dit, il faut donner à pouvoir, accorder à chacun de déployer cela. C'est le meilleur chemin vers une existence digne, dit-il. C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'aider les pauvres avec de l'argent doit toujours être une solution provisoire pour affronter les urgences. Il y a des urgences. Donc il faut... Il y a des urgences, il faut aider les pauvres avec de l'argent. Mais, dit le pape, j'insiste pour que cela soit toujours une solution provisoire. Le grand objectif devrait toujours être de leur permettre d'avoir une vie digne par le travail. La politique qui est nécessaire, hein, à la fraternité universelle, à la paix sociale, comme on l'a lu au numéro, je crois, 176 au tout début, hein, la politique ne peut pas renoncer à l'objectif de faire en sorte que, voyez, la politique, l'objectif, la politique, au fond, doit se donner, nous dit le pape, des objectifs. Et dans ces objectifs, il pointe ici un objectif majeur. Hein? Maintenant, je le lis sans trop de commentaires. La politique ne peut pas renoncer à l'objectif de faire en sorte que l'organisation d'une société assure à chacun quelques moyens d'apporter sa contribution et ses efforts. Organiser donc la société de manière à ce que cette organisation puisse permettre à chacun d'apporter sa contribution et ses efforts. Et voyez, ce n'est pas pour en tirer profit, ce n'est pas pour exploiter l'homme. Oh non, il y en a eu beaucoup trop d'esclavage, il y en a encore. Ce n'est pas pour, c'est un commentaire ici que je fais, ce n'est pas pour en tirer profit, mais pour assurer à la personne sa dignité humaine. L'homme, la femme, est appelé finalement à être co-créateur de ce monde. Et il y a peut-être de cela que le pape souligne dans cette importance pour chacun, qu'il puisse lui être donné de déployer ce que le Seigneur a semé en lui, ses forces, sa capacité d'initiative, etc. Dès le livre de la Genèse, finalement, au récit de la création, à un moment donné, cette création, elle est confiée à l'homme, à l'humain, à l'Adam. L'Adam, c'est l'humain dans toute sa totalité. C'est pas seulement ceux qui ont les diplômes universitaires, c'est pas seulement les riches, c'est pas seulement les bien portants, c'est l'humain, c'est l'Adam. Et donc, quelque part, ce que je perçois dans ce que le pape écrit, c'est que notre monde et notre système, et que la politique au service de cette fraternité universelle et de cette paix sociale qui intègre, qui inclut tout humain, doit pouvoir d'une certaine manière donner à tout humain, à l'Adam, de contribuer au bien commun, et pas de se contenter, entre guillemets, d'en faire un assisté. Parce que ce n'est pas sa vocation. Sa vocation est d'apporter ce qu'il peut apporter à la construction du bien commun. Voilà, ça c'est un peu le mécanisme. Et en même temps, comme il dit, il y a besoin de pouvoir assister celui qui est dans le besoin, dans l'urgence, mais que cette assistance puisse rester, comme il le dit, une solution provisoire, et ne pas en faire un mode d'être. Parce qu'alors, si on en fait le mode d'être, on ne donne plus la possibilité à l'humain de déployer ce qu'il peut apporter à la société, au monde, au bien commun. Et voyez, je vais directement à la fin de ce chapitre 5 faire un pont ici avec, si je le retrouve, un autre numéro. Toc toc. Qu'est-ce que c'est ? Si je retrouve. Voilà. C'est là où il parle de la nécessité d'avoir dans notre monde des poètes sociaux. Hein? C'est une belle expression quelque part. Hein? Le poète, finalement, c'est celui qui va rêver quelque chose et qui va aussi interpeller pour peut-être dire il y a une autre manière de vivre les choses. D'accord? Donc il parle des poètes sociaux. C'est au numéro 169. Je vous lis cela parce que voilà, c'est directement lié à ce que je viens de lire plus haut. Les poètes sociaux sont ceux qui travaillent, qui proposent, qui promeuvent et qui libèrent à leur manière. Grâce à eux, un développement humain intégral sera possible, qui implique, maintenant la phrase importante, que soit dépassée cette idée politique sociale conçue, cette idée de politique sociale conçue comme une politique vers les pauvres, mais jamais avec les pauvres. Voyez, la Sistana, en gros, hein, je caricature ici, mais cette politique sociale vers les pauvres, mais le poète social, lui, il va proposer, et pourquoi pas une politique sociale avec les pauvres, voilà, ou même une politique sociale des pauvres. Vous voyez, vers, avec et des. Maintenant, je relis cette phrase. Hein, il ne suffit pas d'avoir une politique vers pour que chacun des pauvres ait de quoi manger aujourd'hui. C'est fondamental, c'est nécessaire. Mais n'y a-t-il pas quelque chose à construire avec eux? Pas seulement vers, mais avec. Et même d'en faire une politique des pauvres. Je relis ça. Les poètes sociaux sont ceux qui travaillent, qui proposent, qui promeuvent et qui libèrent à leur manière. Grâce à eux, un développement humain intégral sera possible, qui implique que soit dépassée cette idée de politique sociale conçue comme une politique vers les pauvres, mais jamais avec les pauvres, jamais des pauvres. Oui. Et on voit donc bien, hein, l'enjeu sur lequel appuie le pape François. Si nous sommes tous frères, il y a à trouver les manières d'inventer, de pouvoir inclure l'ensemble de la fraternité universelle dans un projet commun, où chacun a sa pierre à apporter. Regardez le mur de la chapelle tout à l'heure. La chapelle tient debout parce que ce mur est ce qu'il est. Il n'y a pas deux pierres les mêmes. Et il y a des pierres toutes petites, sont nécessaires dans ce mur. Il y a des pierres toutes grandes, sont nécessaires dans ce mur. Et il y a un ciment qui lie toutes ces pierres. Voyez ? Et le ciment qui lie toutes ces pierres, le pape en parlera dans la deuxième partie quand il parlera de la politique internationale en particulier, il parlera de la charité. Voilà. Et la charité, quelque part, ça touche aussi la dimension que j'ai soulevée dans le chapitre 4 tout à l'heure, hein, la gratuité. Il faut les pierres différentes. Et puis il faut cette charité qui donne à chaque pierre, de chaque humain, de pouvoir porter sa contribution. Et donc il parle ainsi des poètes sociaux. La charité, c'est impressionnant, hein, parce que finalement la charité est centrale dans ce chapitre 5 où le pape nous parle de la bonne politique ou la meilleure politique, je ne sais plus. Comme je vous l'ai dit, voilà. Donc nous en sommes au travail, toujours. Hein. Voilà. Il n'existe pas pire pauvreté, il n'existe pas de pire pauvreté que celle qui prive du travail et de la dignité du travail. Voilà. Parce que le travail, dit-il, c'est toujours au 162, hein, parce que le travail n'est pas seulement un moyen de gagner sa vie, mais aussi une voie pour l'épanouissement personnel, en vue d'établir des relations saines, de se réaliser, de partager des dons, voilà, de partager des dons, de se sentir co-responsable de l'amélioration du monde. Voilà. Et en définitive, de vivre comme peuple. Voilà. Voilà, nous allons rester là pour ce matin. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera cet après-midi à l'ensemble du chapitre 5, mais ce n'est pas grave. L'importance, au fond, c'est une journée pour Dieu, à travers ce que le pape nous partage dans son encyclique, c'est qu'au fond, il nous aide à reconsidérer la dignité de l'être humain, de tout être humain. Et quelque part, la politique dont il parle ici, bien sûr, il nous en parle au niveau des États, hein, au sens habituel où nous entendons la politique, mais d'une certaine manière, n'est-ce pas aussi applicable au cœur de chacune de nos vies? Dans ma manière de vivre les relations avec les autres? Est-ce que je suscite auprès des autres ce qu'ils peuvent apporter? Même si apparemment, ils n'ont rien, ils ont quelque chose. Même si je dois à un moment donné aider une personne, par exemple financièrement parce qu'elle n'a rien, et que c'est nécessaire, est-ce que je suscite auprès de cette personne d'apporter ce qu'elle peut apporter? Ce ne sera pas de l'argent puisqu'elle en a besoin et que je lui en donne, mais elle a quelque chose. Voilà. Et là, quelque part, ça commence aussi à nous rejoindre. Tout cet enjeu sur la bonne politique. On pourrait dire, c'est aussi, hein, d'une certaine manière, la bonne gouvernance de notre vie, d'une certaine manière. Ce dont le pape François parle au plan national, qu'il va évoquer après au plan mondial et international. Mais finalement, je peux aisément, me semble-t-il, le transposer au plan de mes relations humaines, du quotidien. Alors en même temps, quand le pape nous dit tout ça, il ne faut pas non plus vivre dans la culpabilité, se culpabiliser, je ne sais pas tout quoi. Non. Il nous pointe des éléments de croissance pour la fraternité universelle. Et ça, c'est boostant. Ça, c'est enthousiasmant. Voilà. C'est ça qu'il faut voir. Et puis, c'est comme quand on lit Alors le pape, c'est pas l'évangile, mais quand on lit l'évangile, quand on voit les invitations du Christ, etc., ben c'est pas pour nous culpabiliser de ne pas y être. C'est pour nous dire, ben Jean-Marc, allez, mets-toi en route et fais un petit pas aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est un petit pas. Mais c'est fantastique. Un petit pas. C'est comme ça qu'on fait les grands pèlerinages. On n'arrive jamais au sommet d'une montagne en une heure. Un petit pas. Puis c'est parfois sinueux. Mais de garder l'objectif. Garder l'objectif. Ça, c'est important. Parce que c'est l'objectif qui, au fil du jour, des semaines, des années, donne d'ajuster la marche. C'est l'objectif. Je vous relis cette phrase que j'ai lue tantôt, au 162. La politique ne peut pas renoncer à l'objectif de, tac, 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 faire en sorte que les structures, etc., etc., etc. Ne pas renoncer à l'objectif. Ça veut dire faire le petit pas. Voilà. Et pour nous, c'est pareil. Je vous souhaite une bonne rencontre avec le Seigneur. Pour ceux qui le veulent, le Saint-Sacrement est sur l'autel. Le Père Philippe est à disposition pour le sacrement de la réconciliation au bureau du prédicateur et moi-même à la mezzanine. Et on se retrouve à 11h30, dans une bonne heure, pour la célébration de l'Eucharistie.